Réussir votre go-to-market sur le marché allemand est notre objectif. Depuis plus de 10 ans, l'équipe Wings accompagne les entrepreneurs et leurs équipes dans leurs projets de go-to-market sur le marché allemand. Nous croyons fermement que l'apprentissage auprès de ceux qui ont déjà fait le chemin est essentiel pour réussir. C'est pourquoi, dans ce podcast, nous donnons la parole aux personnes en charge de ces projets. Des CEO, des country managers ou encore des personnes qui font partie de l'équipe de lancement. Ils partageront avec nous leur histoire et nous livreront leurs précieux conseils et astuces pour lancer une entreprise ou un projet en Allemagne. Je suis Andrea Vaughan, la fondatrice de Wings.co. Nous aidons des entreprises françaises à lancer ou à améliorer leur activité sur le marché allemand et vice-versa. Alors préparez-vous à découvrir les secrets de la réussite sur le marché allemand. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis super contente de retrouver Sophie Verl, qui est General Manager d'art chez PlayPlay et qui a donc lancé les activités de PlayPlay en Allemagne. Mais saviez-vous qu'elle a aussi été la salariée numéro 1 de Doctolib en Allemagne et qu'elle a aussi lancé les activités de Doctolib sur le marché allemand? Avec Sophie, nous discutons de la construction d'équipes en Allemagne, des sales, du marketing, de la gestion des équipes franco-allemandes. Bref, elle nous partage ses expériences et ses tips de ces deux lancements emblématiques dans un épisode hyper riche et passionnant jusqu'à la fin. Prenez un crayon et maintenant, let's go. Alors, bonjour Sophie, je suis super contente de t'avoir dans notre podcast Go to Germany Stories. Aujourd'hui, pour la dernière épisode de l'année 2023, bienvenue chez nous.
Merci Andrea, bonjour à tous, très contente d'être là.
Et peut-être avant de rentrer dans le vif de tous les sujets qu'on a envie de discuter aujourd'hui, est-ce que tu peux juste te présenter en 2-3 minutes et aussi ce que fait PlayPlay aujourd'hui, l'entreprise dans laquelle tu travailles?
Alors moi, du coup, j'ai 37 ans, j'ai un enfant depuis très peu, depuis qu'il y a 8 mois maintenant, et je vis à Berlin. Je vis à Berlin maintenant, je vis en Allemagne depuis presque 7 ans maintenant, mais je suis originaire de, enfin je suis née en France, née à Paris, parents, père allemand, mère française. J'ai fait mes études en France, j'ai fait un parcours généraliste, donc école de commerce. Et j'ai toujours été très attirée par l'entrepreneuriat, j'ai fait mon master en entrepreneuriat. Et avant de me lancer, j'ai décidé de prendre un peu le temps de savoir, d'acquérir des bons basiques. J'ai décidé de me lancer en consulting, donc j'ai fait 2 ans et demi de conseil à Paris. Et ensuite, là, j'étais vraiment brûlante de rejoindre le monde de l'entrepreneuriat. Et je suis tombée sur le concept de Doctolib un peu par hasard. Et ensuite, voilà, je vais aller rapidement, mais je suis rentrée chez Doctolib au tout début. Donc, on était encore une cinquantaine, on n'était encore pas internationalisés, on était encore en France, on venait d'ouvrir le bureau à Lyon. Donc, vraiment tout début, et j'ai découvert ce nouveau monde. J'ai découvert aussi le monde de sales. J'étais moi-même sales quand je suis rentrée chez Doctolib. Et ça a été une super école. Et en fait, Doctolib a eu un succès fou très rapidement en France, ce qui a permis en fait de lever des fonds assez rapidement et de décider de s'internationaliser, en commençant par le beau pays qu'est l'Allemagne. Et donc, j'ai eu la chance en fait qu'on m'accorde cette mission d'aller ouvrir l'Allemagne. Donc, je suis partie m'installer à Berlin. Et on a commencé, j'ai fait de tout. C'était vraiment un métier très couteau suisse. J'ai énormément appris sur plein d'aspects. Et donc, j'ai passé à peu près 6 ans en Allemagne pour développer Doctolib ici. En accompagnement tout le scale entre 0 employé, vu que j'étais la première employée, à environ 500. Et ensuite, là, j'ai eu plein de rôles, donc je vais aller vite, vu que t'as demandé 2-3 minutes. Après, j'ai décidé de changer un peu de direction. J'ai toujours été plutôt quelqu'un de généraliste, attiré par plein de choses, curieuse d'apprendre plein de choses différentes et de travailler au quotidien sur différents sujets. Et en fait, après cette expérience chez Doctolib, j'ai décidé de prendre encore plus de responsabilités. Et de cette fois-ci, j'ai eu la possibilité de lancer PlayPlay en Allemagne et de prendre les rênes en tant que general manager, enfin country manager. Et donc maintenant, ça fait à peu près 1 an et demi que je travaille pour PlayPlay. On est aussi à Berlin pour l'instant. Et qu'est-ce qu'est PlayPlay? Donc PlayPlay, en fait, c'est une plateforme de création de vidéos. Et qui est à destination des entreprises principalement. Donc, c'est une plateforme qui te permet de créer des vidéos très rapidement sans avoir besoin d'avoir forcément des compétences en création, édition, en publication de vidéos. Donc, en quelques minutes, tu peux avoir créé une super vidéo de top qualité et publier sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ça permet vraiment de scaler la production de vidéos en tant que quand tu travailles dans la communication.
Et ça fonctionne super bien.
Ouais, ça fonctionne très bien. On est aujourd'hui, en fait, on est déjà une boîte très internationale. On est présent dans plus de 30 pays. On a un bureau à Paris, donc le bureau initial, le headquarter. On a aussi ouvert un bureau à New York et maintenant à Berlin aussi. C'est PlayPlay, c'est vraiment un modèle qui est très scalable, on va dire. On peut pas compter. C'est différent de Doctolib, je dirais. C'est très international depuis le début. En fait, c'est un outil comme tu utiliserais, je sais pas moi, un outil comme Canva, etc., qui en fait est très rapide à comprendre et qui n'a pas devant lui, enfin, beaucoup de barrières à s'internationaliser finalement. Donc, on a été utilisé très rapidement par plein de groupes, plein de grands groupes en fait, qui avaient des filiales d'ailleurs dans plein de pays différents et qui ont pu l'utiliser sans problème, dans le monde entier.
Et je trouve ce qui est très intéressant, notamment dans tes deux expériences, et c'est un peu la première question qu'on voulait discuter, c'est justement autour de la création de l'équipe. Et comme il y a quand même deux produits qui sont assez différents, parce qu'il y en a un qui implique une présence sur place et un contact directement avec le client sur place chez Doctolib, et l'autre qui est plus très hands-off, hein, t'as pas forcément besoin d'aller voir un client pour lui vendre l'outil ou pour lui présenter l'outil. Est-ce que tu peux, et comme sur les deux expériences, tu as commencé à zéro finalement et vraiment aidé à mettre en place les équipes de départ, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des deux expériences, peut-être un petit peu les différences entre les deux, parce que je sais que chez Doctolib, c'était quand même un gros challenge au début parce qu'il fallait monter les équipes très vite, notamment aussi en termes de field sales, des gens qui étaient vraiment sur le terrain. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment vous êtes pris au début, comment vous avez trouvé les gens pour justement mettre en place ce projet sur le marché allemand?
Oui, alors c'est sûr que c'est deux produits totalement différents, mais à l'époque Doctolib et aussi PlayPlay au début, il y avait quand même cette volonté d'aller assez vite dans le pays. On a pour les deux commencé une petite investigation depuis la France. Donc si je reprends Doctolib, en fait, avec la personne en charge du développement international, en fait, on commençait à faire quand même un petit peu des quelques analyses un peu marché, compréhension un peu des usages de la compétition, enfin voilà, une analyse un peu classique pour se préparer. Et c'est vrai que très rapidement, on est venu à Berlin sur place pour aller sur le terrain, rencontrer les médecins dans le cadre de Doctolib et présenter le produit et avoir des retours. Et en fait, voilà, ça a été assez, comme tu dis, ouais, c'était rapide. On n'a pas mis un an à se préparer avant de venir. C'est vrai qu'il y avait ce besoin d'aller vite. Et en fait, même quand on est venu, moi je me rappelle cette anecdote, mais le produit était encore principalement en français. Donc moi, ma stratégie pour avoir des premiers clients, j'ai identifié tous les médecins francophones. Donc je suis allée sur le site de l'ambassade de France, j'ai scrappé ces listes-là et je les ai appelées, je suis allée les voir et en fait, c'est nos premiers médecins clients sont des médecins franco-allemands. Donc, qui ont été OK d'utiliser Doctolib à moitié traduit. Voilà. Donc, bien sûr, ça a été quand même assez incroyable quand on y repense qu'on ait des médecins allemands qui se soient engagés comme ça dès le départ. Alors après, on avait créé un peu un concept d'ambassadeur en leur disant, voilà, vous êtes les premiers, on va travailler main dans la main avec vous. Mais en échange de ça, on a besoin de vous, de vos feedbacks, de comprendre comment vous fonctionnez, comment marche un cabinet médical, quels sont vos outils, quels sont vos challenges. Enfin, voilà, vraiment, travailler main dans la main. Et en échange de ça, ils acceptaient d'utiliser Doctolib, de former leurs équipes à Doctolib. Et ils ne payaient pas. Au début. Ça a été un choix qu'on a fait au début, qu'on n'a pas refait sur l'Italie. En Italie, on n'a pas refait un concept gratuit. Mais voilà. Et chez PlayPlay, on ne l'a pas fait non plus.
Bah, au début, parfois, il faut faire un peu avec les moyens du bord. Donc là, vous êtes parti avec un produit qui était qu'à moitié traduit. C'est quand même assez
Enfin, c'est un petit peu culotté, mais c'est ambitieux, quoi, en même temps. Donc, il faut faire avec ce qu'on a, quoi.
Ouais, on n'avait pas la notoriété aussi que Doctolib a eu après, quand on a lancé Italie, c'est sûr. Et puis, on n'avait pas les mêmes ressources derrière. Aujourd'hui, voilà, les équipes, elles ont, elles ont x10. Enfin, c'est, ça n'a rien à voir. On n'a pas la même force de frappe à ce moment-là.
Mais au début, parce que vous avez aussi dû chercher des profils, j'imagine, hein, pour la première équipe, qui étaient des profils un peu stratégiques quand même pour lancer le marché, mais après aussi des vendeurs, des commerciaux de terrain. Donc, comment est-ce que vous avez convaincu des gens de rejoindre cette histoire avec un outil qui était à moitié traduit Quels étaient un petit peu les premiers mois là-dessus?
Bah, c'est vrai que déjà, bon, il y avait moi qui avais quand même déjà une expérience de un an et demi chez Doctolib en France. Donc ça, c'est important. Je travaillais Agnès et Stan, donc CEO et Chief Development Officer, étaient avec moi, venaient régulièrement toutes les semaines à Berlin, et on allait ensemble très souvent aussi dans les cabinets. Donc eux, ils apportaient aussi énormément de d'input, d'insight. Ils ont aidé à construire dès le départ avec moi les playbooks, différents playbooks pour l'Allemagne. Bien sûr, on a essayé de reprendre tout ce qui existait déjà, et après on a regardé, ok, est-ce que ça marche pas, voilà, on a itéré là-dessus. Et après, bien sûr, on a cherché des personnes sur place, parce que très vite on s'est rendu compte qu'il faut des personnes locales, des Allemands, c'est hyper important, la langue mais aussi la culture, et on voulait créer de toute façon un Doctolib en Allemagne, un bureau, et grandir. On avait déjà quand même une vision assez long terme, et oui, on a cherché des personnes, en fait, des profils qui avaient déjà fait de la vente, qui avaient un profil entrepreneurial, qui avaient envie d'être là au départ et construire quelque chose, des gens très hands-on, qui étaient prêts à aller sur le terrain et à défricher tout ça avec nous. Donc voilà, c'est des profils particuliers. On n'en trouve pas dans tous les coins de rue, mais voilà, on a eu la chance de... Agnès était très, très forte sur le recrutement, avec une équipe de recrutement aussi déjà en France très, très, très forte et qui nous a aidés. Et ensuite, on a aussi, bien sûr, travaillé avec des cabinets, des freelances au départ en Allemagne pour nous aider. Et puis, on a construit une équipe de recrutement très vite aussi ici.
Sur place?
Ouais.
Oui. Alors, j'ai deux questions par rapport à ce que tu viens de dire. La première, c'est quelle était l'importance pour toi d'amener, notamment tu parlais de Stan et aussi de Agnès, de les amener sur le terrain en Allemagne chez les médecins pour qu'ils les rencontrent directement, discutent avec eux et aient aussi un feeling du terrain ensemble avec toi?
Oui. Ouais, c'était vraiment le projet prioritaire de Doctolib à cette époque. Donc, eux avaient besoin de sentir les choses, de les voir. Je pense qu'il y avait ce besoin du côté du CEO, vraiment, de comprendre ce marché. Ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, c'est apporter cette culture, etc. En fait, vraiment le souci de maintenir cette culture qu'on avait en France, qui était très forte et qu'on voulait aussi implémenter ici. Et donc, ça passe aussi par la présence du CEO qui est... Enfin, en tout cas, Stan était très, très importante sur cette partie culture. Donc, s'assurer. Moi, j'étais là que depuis un an aussi. Donc, j'étais encore tout, encore un bébé. J'avais besoin encore d'apprendre plein de choses. Donc, j'avais pas la même seniorité que quand j'ai lancé PlayPlay.
Non, parce que c'est quelque chose qu'on conseille toujours aussi, notamment à la direction générale, hein, que ça soit le CEO ou le Chief Development Officer, de se rendre sur place le plus souvent possible. Tu disais toutes les semaines, tous les mois, pour vraiment sentir les clients, de se frotter à ce feedback aussi que tu peux avoir, qui peut être très différent de ce que tu peux connaître en France.
Oui, tout à fait. Et ça a été très important parce qu'en plus, on a dû faire beaucoup d'adaptations pour l'Allemagne, pour Doctolib, ce qu'on n'a pas eu à faire avec PlayPlay.
Et la deuxième question, c'était, donc tu disais que vous avez créé rapidement une équipe de recrutement aussi sur place. Est-ce que tu penses que ça, c'est vraiment ça ce qui a fait la différence, que vous avez eu une talent machine locale en Allemagne, et est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu, comment vous avez trouvé les cabinets très concrètement, qui vous a donné les contacts?
C'est un peu loin tout ça, mais c'est vrai que les cabinets, ça a été surtout utilisé pour aller chercher du leadership, des rôles un peu clés, type des sales, chief sales officer, ou aller chercher le futur country manager, voilà. Mais sur le reste, on a aussi travaillé avec les équipes en interne. Et en fait, on avait un playbook talent. En fait, finalement, tu peux vraiment comparer le talent à une équipe sales, hein, là, sur la manière dont ça fonctionne. Donc, en fait, vu qu'on était très, très fort chez Doctolib sur la partie sales, en fait, on a été aussi assez fort, enfin, ouais, très fort aussi sur la partie talent. Et en fait, c'est un playbook qu'on a ramené, qu'on a importé aussi ici très rapidement. On a travaillé quelquefois avec des freelances, mais très rapidement, nous, notre souci, c'était vraiment de construire une équipe de recrutement sur place. Donc, comment on les a trouvés? Par contact, par réseau. Je pourrais plus te dire exactement, mais avec via l'ambassade, via tous les contacts qu'on pouvait avoir ici sur la scène entrepreneuriale, les écoles de commerce, les VC, les investisseurs, ils avaient aussi des contacts. On a tout. Ouais, bien sûr, tout le monde a cherché dans son réseau. Et après, les événements aussi, les événements start-up, on était beaucoup présents dès le départ sur les différents événements, que ce soit à Berlin ou que ce soit... je sais qu'on avait été aussi au début à Bitzenpretzel, il me semble, assez rapidement aussi. Enfin voilà, on a essayé très rapidement de se connecter sur la scène.
Parce que vous avez eu aussi plusieurs bureaux, je pense, parce que c'est une activité qui est très locale, donc commerciaux étaient très locaux aussi.
Ouais, donc on a commencé par Berlin, mais très rapidement, on s'est rendu compte que la concentration des médecins et aussi l'argent était concentré pas forcément que dans cette région-là. Et donc on a ouvert, c'était partie de mes missions d'aller ouvrir des bureaux. Le premier bureau qu'on a ouvert, c'était à Cologne. Donc on a ouvert pour ouvrir la région de l'Ouest et ensuite on a ouvert Munich. Voilà. Et là maintenant, aujourd'hui, je sais plus combien ils ont de bureaux, mais probablement peut-être 8 ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est quand même une activité très, très locale.
Ouais.
Donc, en contrario, pour PlayPlay, c'était pas tout à fait le même, enfin, c'était un petit peu différent en termes de construction d'équipe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés chez PlayPlay plus concrètement, parce que tu m'as dit, il faut que je construise toute cette équipe-là. Comment est-ce que vous vous êtes prise?
Donc quand je suis rentrée chez PlayPlay, en fait, ils étaient vraiment sur une phase de croissance assez forte. Ils venaient juste de lever leur série B. Un des gros focus après cette levée, c'était de s'internationaliser. Ils avaient priorisé les US, mais ils voulaient aussi devenir le leader vraiment implanté en Europe, avec la volonté d'ouvrir soit l'Allemagne, soit le UK. C'était pas encore très défini à l'époque lequel pays allait être le premier. Et c'est pour ça que là, c'était à la fois stratégique et opportunistique. On s'est rencontrés avec Thibault, le CEO. Et ça tombait parfaitement bien au moment où il voulait ouvrir un autre pays en Europe. Et donc, on a décidé d'ouvrir l'Allemagne. La chance que j'ai eue quand je suis rentrée, c'est qu'on avait déjà, j'avais déjà un petit peu défriché le terrain sur l'Allemagne. Il y avait une personne sur place, Maike d'ailleurs, que tu connais, qui faisait partie de l'équipe d'ImageGen à Paris, qui est allemande, et en fait qui a un peu testé le marché allemand. Ils avaient déjà eu quelques deals gagnés par Maike, mais aussi par de l'expansion, parce qu'on avait des groupes aussi internationaux, je pense à BNP ou choses comme ça, qui avaient en fait des filiales en Allemagne et qui avaient des users en Allemagne. Donc en fait, ils ont pu voir qu'ils avaient déjà des signaux assez positifs sur le marché, qu'il y avait un intérêt et que PlayPlay aurait probablement sa place. Et moi, je suis venue pour venir valider ça, concrétiser ça davantage. Donc, j'ai commencé à Paris comprendre les playbooks, comprendre PlayPlay, le business. Et très rapidement, je suis venue à Berlin et j'ai fait tout d'ici, le recrutement, les premiers discussions clients, etc. Je suis très vite venue à Berlin.
Oui, mais je me souviens aussi, et c'était un point que je trouvais intéressant, c'est que dès le départ, en fait, il y avait deux, trois profils qui étaient assez importants pour toi au début, parce qu'en fait, le recrutement, ça t'a pris énormément de temps, parce que c'est très important de passer beaucoup de temps là-dessus pour trouver les bonnes personnes. Donc, tu avais quand même un ou deux profils qui ont pu, parce qu'il fallait quand même lancer le marché en même temps. Enfin, il fallait faire le recrutement qui était Donc, est-ce que tu peux nous parler de ces profils au début qui ont pu vraiment aider à créer cette structure?
Ouais, alors c'est très particulier parce qu'en fait, quand je suis arrivée, il y avait une ambition très forte. PlayPlay a été en train de recruter massivement, comme beaucoup, beaucoup de scale-up, je pense, qui avaient ce type de levée de fonds à l'époque, avant cette crise qui nous est arrivée ensuite. Et donc, quand je suis arrivée, il y avait déjà un business plan assez clair sur l'Allemagne, quelle taille on voudrait être dans un an, deux ans, quel revenu on veut générer, etc. Donc moi, je suis arrivée dans cette émulsion un peu, voilà, faut aller vite, on a déjà un peu posé, faut aller valider des choses, mais ça a l'air d'aller, il y a pas trop de barrières, donc il faut recruter. Donc quand je suis arrivée, en fait, si tu veux, pour moi, je me suis dit, bon, avec cette vision là, ce qui est rôle clé que j'ai besoin autour de moi, c'est le recrutement. Donc au début, j'ai fait avec freelance, etc., mais finalement, quand on avait avec cette ambition là on s'est dit, bon, il faut avoir quelqu'un qui va aider à recruter rapidement. Et donc d'expérience, c'est vraiment d'avoir quelqu'un en interne, ce qui marche le mieux. Donc une personne de recrutement, une personne forte en sales. Donc, idéalement quelqu'un de senior qui avait déjà fait de la vente enterprise. Donc c'est complètement différent, hein, des profils différents que chez Doctolib. Voilà, sales et de la demand gen. Parce que la demand gen aussi pour nous c'est très important. Donc on travaille beaucoup avec le marketing, mais ensuite il y a pas mal d'inbound. C'est vraiment quelque chose qui m'a surpris et que je trouve génial avec PlayPlay, c'est que le marketing, tu peux vraiment t'amuser et l'inbound marche bien. Il y a un vrai intérêt, mais il faut après traiter tout ça et après l'outbound bien sûr. Donc, vraiment le gros focus sur le recrutement en sales, des premiers sales, sur la demand gen, inbound, outbound, à contact exécutif pour la partie closing, et un CS, Customer Success. Donc ça, c'était un peu plus tard. Bien sûr, il fallait avoir déjà quelques clients, mais tu sais que pour recruter une personne en Allemagne forte, que ce soit en sales, en CS, enfin surtout sales, ça peut prendre des mois. Donc en fait, très rapidement, on a activé la recherche sur CS. Et un rôle très important pour PlayPlay que j'ai cherché très vite, c'était marketing. Donc en fait, finalement, toutes les fonctions business, donc marketing, sales, CS et recrutement.
D'accord. Non, mais ce que je trouve intéressant, et ça a été déjà dit par d'autres aussi, c'est que, mais c'est pas forcément ce qui est fait, mais c'est souvent après, on se rend compte que c'est marche le mieux, c'est d'internaliser au plus vite, si tu as une certaine ambition sur le marché, le recrutement, et d'avoir quelqu'un en interne qui peut faire ce travail pour toi. Parce que finalement, comme tu disais, c'est une activité de commerciale.
Oui, tout à fait, oui. Et en fait, et en plus, j'ai cherché vraiment des profils seniors manager, parce qu'avec cette vision de ok, cette personne va pouvoir ensuite recruter pour son équipe et on va aider à scaler en fait plus rapidement. Et en fait, avec la crise qui est arrivée, etc., il y a eu un peu un retournement de situation. Et si tu veux, on s'est retrouvé dans un complètement autre contexte, d'un point de vue aussi global pour PlayPlay, où on s'est dit, oulala, là, il faut qu'on revoie nos priorités. Et donc, on a fait un petit peu une repriorisation de tous nos projets chez PlayPlay. Et du coup, en fait, l'ambition de l'Allemagne est toujours là. Mais si tu veux, on étale un peu plus dans le temps les choses. Et donc, il a fallu revoir complètement le plan. Et en fait, les personnes que j'avais recrutées au départ n'étaient pas forcément les personnes dont j'avais besoin après cette revue de la priorisation. Donc, si c'était à refaire dans le contexte actuel, je ne recruterais pas les mêmes profils que j'ai recrutés à l'époque.
Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que cette construction d'équipe, c'est vraiment le départ en fait des opérations. Ça veut dire que l'équipe fait tout. C'est très important de mettre beaucoup de focus et beaucoup de temps aussi sur ce recrutement pour avoir finalement l'équipe. Parce que comme l'équipe sont souvent quand même à taille encore réduite au début, tu as vraiment besoin que tous les chaînes tous les maillots de la chaîne fonctionnent parfaitement ensemble. Donc ça, c'est quand même un challenge au début. Il y a un autre sujet dont on voulait parler et tu m'avais dit aussi un peu en préparation que c'était très important dans les deux cas, donc tant chez Doctolib que chez PlayPlay, mais que c'était fait d'une manière peut-être un peu différente. Et quand on rentre un peu plus dans les questions marketing commercial et la façon dont ça fonctionne et notamment la façon dont vous avez structuré ça, dont tu as pu reprendre, parce que tout à l'heure tu disais que tu as pu reprendre le playbook recrutement de Doctolib en Allemagne. Donc, cette importance de la structuration de l'information, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans des startups, hein, parce que la structuration de l'information dans des playbooks et tout ça, c'est souvent quelque chose qu'on aime bien mettre à plus tard. Mais est-ce que tu peux un peu nous dire pourquoi c'était important pour toi, peut-être dans les deux cas, et comment ça a pu t'aider, en fait, d'aller plus vite? Parce que c'est ce qu'on veut aussi motiver les gens à documenter et à écrire des playbooks, notamment, qui peuvent aller aider à aller plus vite par la suite.
Écoute, Doctolib, pour moi, c'était vraiment l'école, l'excellence de la structuration. quand je suis arrivée au tout début, je me rappelle, mon onboarding était, à l'époque, alors c'était le tout début, impressionnant de structure. Les playbooks, on avait une sales bible, mais c'était incroyable, quoi, l'information, la structure qu'il y avait déjà en place à l'époque quand j'ai rejoint. Et ça venait de l'équipe fondatrice, donc Stan, qui est quelqu'un de très structuré et qui, aussi par le passé, avait travaillé pour des boîtes dans lesquelles ils avaient aussi mis une grande importance, je pense à La Fourchette notamment, sur la structuration de l'information. Et en fait, il l'a apporté dès le départ, dès qu'il a fondé Doctolib, il l'a apporté. Et il a infusé cette culture de la structure et du partage d'informations et de toujours mettre à jour les choses au quotidien, de cette discipline, en fait. Il a vraiment infusé cette discipline dès le départ, avec les premiers employés. Et après, c'était le rôle des managers, etc., devenir exemplaire sur ça. Et il insistait énormément là-dessus. Et donc, je pense que après, c'est devenu une habitude, c'est devenu vraiment quelque chose d'ancré. D'ailleurs, la structure était un des piliers de Doctolib, à l'époque, quand j'y étais encore. On insistait beaucoup là-dessus. Ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous aide dès l'onboarding, en fait. Dès que tu recrutes des nouveaux employés, d'être structuré sur le programme de formation, qu'est-ce que tu apprends, quels sont les objectifs, quels sont les éléments clés à savoir, comment tu structures ta semaine, ton temps, comment tu fais en sorte que ton temps, tout ce que tu fais apporte de la valeur. Et donc, tu vas toujours faire en sorte que, tu vas toujours prioriser tes actions en fonction de tes priorités et donc adapter ton temps en fonction de ça. Donc, nous, je me rappelle, on appelait ça à l'époque chez Doctolib la time matrix. Donc, on avait des agendas qui étaient structurés à la minute et on mettait, des couleurs et tout pour chaque. Ok, alors je suis sûre, tout le bleu, c'est tout le temps que je passe en meeting. Donc, là, je m'assure que j'ai bien 80% de mon temps qui est sur la partie vente. Je te fais c'est un exemple concret, mais oui, c'était comme ça. Et en fait, ça peut paraître un peu très scolaire. Oui, et en même temps, je pense que ça apporte moi ça m'a beaucoup aidé à apprendre à structurer. Aujourd'hui, je fais plus une time matrix aussi précise. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça parce que j'arrive plus facilement, j'ai plus l'habitude, etc. Mais pour des juniors qui arrivent et qui sont pas habitués au monde du travail et où en plus t'as besoin, nous on avait t'avais cette pression d'aller vite, d'être efficient très vite, de pas perdre de temps. Mais en fait, ça a beaucoup beaucoup aidé à ça. Ça c'était très important. Chez PlayPlay, pas du tout pareil.
Oui. Et attends, donc dans le lancement du marché allemand, du coup, donc les playbooks que vous avez déjà eu au début, donc ça vous a permis de lancer le marché beaucoup plus rapidement que si vous auriez dû tout revoir from scratch. Donc vous avez quand même pu faire un copier-coller et après une adaptation.
Exactement. En fait, on a copié-collé, traduit et ensuite, en fait, on est repassé sur tout ça. On a formé les premiers employés à ça et en fait, ils nous aient de retour terrain. On a itéré sur OK, qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qu'on doit adapter. Et c'était aussi à eux finalement aussi d'adapter eux-mêmes. Donc on responsabilisait les équipes sur la mise à jour de ça et l'adaptation locale. Donc là, je te parlais de l'onboarding, mais bien sûr, après, c'est sur la formation, tous les playbooks, marketing, sales, talent. Enfin, il y a eu des adaptations à faire sur tous les différents domaines.
D'accord. Donc, super important. Et chez PlayPlay, donc ?
Et chez PlayPlay, il y a de la structure, bien sûr, il y a quand même de la structure, mais c'était pas à ce point il n'y avait pas un accent mis là-dessus à ce point-là. Chaque équipe avait un peu sa manière de travailler quand je suis arrivée. Et utiliser les outils ou pas. Voilà, c'était assez libre là-dessus. Ce qui est... Moi, en fait, quand je suis arrivée chez PlayPlay, j'ai réutilisé un petit peu ce que j'ai appris chez Doctolib et je l'ai utilisé pour l'Allemagne, pour certaines choses. Après, il y avait quand même des playbooks, des choses existantes, il y avait quand même des choses de fait, on partait pas de zéro et on a pu réutiliser beaucoup de choses pour l'Allemagne. Maintenant, voilà, je pense que on a maintenant aussi une équipe, une personne qui se charge de mettre à jour, ses playbooks, de structurer ses playbooks, de les rendre globales et pour permettre un partage justement de l'information entre les différents pays et les différentes équipes. Parce qu'au début, c'était un peu chacun dans son coin fait des choses. Maintenant, c'est beaucoup plus partagé, etc., plus structuré. Donc, ça a été pris, ça a été fait, mais plus en silo, je dirais, à l'époque. Au début, non, je pense que c'était très partagé quand c'était petit. Mais après, il y a eu toute cette phase de croissance où ils ont beaucoup recruté. Et donc, après, ça a été un peu en silo. Et là, maintenant, ça a été remis en commun. Et voilà, maintenant, on est plus structuré, plus globalisé sur le sujet.
D'accord. Et notamment chez PlayPlay, donc les clients que vous cherchez pour le produit, c'est plutôt une cible enterprise. Donc plutôt des gros clients, parce que c'est un outil qui est quand même aussi par rapport à sa concurrence beaucoup plus intégré, il y a beaucoup plus de fonctionnalités, de validation en interne, de travail en équipe et tout ça. Et comment est-ce que vous avez fait au début, en arrivant sur le marché allemand, vous avez adapté le produit pour les trouver, pour les signer, quelle était un petit peu cette particularité qui était quand même très différente de ce que vous avez fait chez Doctolib? Mais est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu du processus commercial, comment vous avez fait pour trouver les premiers clients? On avait parlé du Land and Expand. Donc, évidemment, c'est toujours intéressant de savoir comment signer un corporate en Allemagne.
Oui, exactement. Il y a eu plusieurs façons de rentrer. La première, ça a été justement l'expansion. Donc, on avait des groupes internationaux qui étaient signés par des équipes en France. Et en fait, il y avait des filiales en Allemagne. En fait, comme tu disais, on a cette stratégie chez PlayPlay qui est le Land and Expand. Donc, on rentre dans les groupes avec un certain... package avec un certain nombre de users et ensuite par le bouche à oreille, par des actions aussi marketing, par l'action des sales, on va faire en sorte de se déployer dans le groupe. Et donc, en fait, on avait des clients en Allemagne quand je suis arrivée via cette méthode-là qui était de l'expansion. Donc ça, c'est un deuxième façon, c'était l'outbound. Donc Mike, typiquement, avait fait beaucoup de calling, appelé directement les équipes de communication, marketing, etc. dans les différentes entreprises pour présenter PlayPlay. Donc ça, ça a été un autre moyen de rentrer. Et donc en fait, on a été chercher des entreprises qui étaient des entreprises allemandes et qui correspondaient un peu aux entreprises qu'on avait signé déjà en France ou Rest of World. Donc, PlayPlay, l'avantage, c'est qu'en fait, on est intéressant pour tout type d'entreprise, tout type d'industrie, toute personne en fait qui a envie de communiquer. Donc, c'est quand même très large. Hein. On a une audience assez large. Il n'y avait pas beaucoup de filtres à faire là-dessus. C'était assez libre. Donc, en fait, Maïke, elle a essayé plein d'industries, plein de différentes tailles d'entreprises. Et ensuite, quand je suis arrivée, on a commencé à faire des actions marketing dédiées au marché allemand avec des campagnes, par exemple, des campagnes LinkedIn. Ça a été des choses qu'on a fait. On a fait des événements en Allemagne, des conférences, on a fait des webinars. En fait, la première année, mais même encore, là, ça a été beaucoup. On a testé plein de choses qui ont marché en France et on a regardé est-ce que ça marche aussi en Allemagne. Ça a été vraiment la première année, ça a été du test and learn en réutilisant ce qui marchait déjà en France.
Est-ce qu'il y a des méthodes qui ont particulièrement bien ou pas bien fonctionné? Notamment, souvent, on dit que le calling, c'est compliqué en Allemagne, mais après, finalement, on se rend compte que c'est une des seules choses qui marche vraiment. Donc, quels sont un petit peu les highlights?
Le calling, ça marche. Le calling, on en fait toujours. En fait, on a créé des cadences, en fait, où c'est un mix de calling, de mail, de LinkedIn. On a plusieurs façons, on teste encore plein de choses, mais aujourd'hui, le calling fait partie vraiment de notre stratégie outbound encore. Et il le sera encore longtemps, je pense.
Donc, tester les différents formats, voir ce qui fonctionne, adapter, traduire. Je pense qu'on n'arrête jamais. Je pense que on prend peut-être un an ou deux quand même. Il faut quand même se donner un peu de temps de savoir ce qui fonctionne, quoi les gens sont réceptifs, quels sont les formats qui fonctionnent dans d'autres pays et tester pas mal de choses.
Je pense que c'est totalement différent aussi l'audience qu'avec Doctolib. Doctolib, à l'époque, c'était très compliqué le calling. On faisait beaucoup de porte à porte. Même parfois, ils nous demandaient d'envoyer des fax. Enfin, il y avait encore l'utilisation du fax. C'était lunaire. Là, on parle à des équipes qui sont déjà très, même dans des Mittelstand, donc dans des SMB, les personnes qui communiquent, qui font du marketing, etc., sont plutôt internationales quand même. Ils parlent anglais, ils sont présents sur LinkedIn, ils sont pas, je veux dire, oui, il y a la culture allemande et c'est sûr que c'est différent. Et lancer un business en Allemagne prendra toujours plus de temps, je pense, que peut-être dans d'autres pays. Mais on a moins de barrières avec PlayPlay sur ce point-là. C'est quand même plus facile, je dirais.
Et est-ce que tu veux, parce qu'on parle beaucoup de aussi quand on parle du franco-allemand et quand on essaie d'expliquer aux Français comment fonctionne le marché allemand, et en effet, t'es très bien placé pour le faire. C'est la question de la confiance, la question du service, qui sont très importants pour les Français, mais encore plus parfois importants pour les Allemands. Est-ce que vous avez ressenti la même chose chez PlayPlay, notamment sur le service?
Je pense que sur le service, c'est un des gros points de valeur de PlayPlay en Allemagne. Je ressens vraiment, donc on a déjà une satisfaction qui est très élevée sur cette partie-là, des très bons retours. Le service, c'est toujours un point très important. Ils ont besoin de se sentir accompagnés, aidés quand c'est un nouvel outil. Surtout que PlayPlay en Allemagne, enfin la vidéo, le niveau de maturité n'est pas encore très élevé en Allemagne. À la différence de la France, c'est un de nos plus grands challenges, je dirais, en fait, pour PlayPlay, c'est d'éduquer ce marché. Alors qu'il a déjà utilisé la vidéo, mais la vidéo à ce niveau-là, avec sans avoir que le fait que t'aies pas besoin de compétences et que tu puisses avoir des outils pour créer de la vidéo et produire autant rapidement, ça c'est quelque chose qu'il faut faire connaître. Et je pense que c'est notre rôle et ça va être vraiment la priorité de l'année prochaine. Je pense que l'AI va énormément aider à ça et je vois l'AI comme étant vraiment une opportunité énorme pour PlayPlay, pour le développement en Allemagne, dans le monde, mais en Allemagne aussi, pour accélérer cette éducation. Oui, je pense que le service est important et aussi la confiance. Donc là maintenant c'est super, on a plein de nouveaux logos, des super clients. On voulait quand même attendre qu'il y ait de l'usage, etc., pour essayer de faire des choses avec eux et utiliser nos clients, leur satisfaction, etc., mettre ça en avant davantage sur le marché allemand pour apporter encore plus de confiance. Parce que même si on est un outil global, international et qu'il y a moins de barrières, quand même, ça reste un pays où il y a besoin quand même de faire confiance aux produits et ça marche aussi par la preuve que ça marche et que les autres sont contents. On va essayer de leverager ça l'an prochain.
Donc, il faut quand même, au début, chercher quelques logos assez connus, assez rapidement, parce qu'ils ont quand même besoin de savoir, un autre gros client, gros logo du DAX qui utilise la solution.
Et chez Doctolib, on a fait la même chose, on a cherché des key opinion leaders, donc des médecins très connus qui publiaient, qui faisaient en Allemagne, qui avaient vraiment une énorme résonance sur le pays, et on essayait de les avoir très vite pour pouvoir les utiliser dans nos pitchs derrière pour convaincre.
Et maintenant, parce que tu as vécu, tu le vis encore, mais dans deux structures qui sont donc en France et en Allemagne, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont vous étiez organisé entre la France et l'Allemagne? Parce qu'il y a toujours la question de qu'est-ce que je centralise, qu'est-ce que je mets dans les pays, quelles sont les responsabilités que je garde au headquarters, que je donne au pays, et la façon dont ça fonctionne également aussi dans la collaboration entre les équipes. Un Allemand travaille différemment qu'un Français. Il prend des décisions différemment qu'en français. Donc, est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques anecdotes ou la façon dont ça a été organisé, donc centralisé versus décentralisé, et comment vous avez gérer tout ça?
Oui, alors je pense que ça, c'est vraiment, ça dépend vraiment de l'entreprise, du business. Il y a plein de choses possibles. Et c'est vrai que c'est souvent les questions qu'on se pose quand on lance le pays. Comment... Mais d'ailleurs, c'est une question que je me posais, qu'est-ce qu'on fait global, local? En vrai, au début, quand tu lances le marché, il faut créer une petite équipe sur le projet du lancement, qui peut être un peu un mix de différentes choses. Il faut faire. En fait, ça va dépendre de ce qui fait sens, en fait. Donc moi, je te donne l'exemple de PlayPlay. PlayPlay, en fait, on avait des playbooks qui fonctionnaient très bien en marketing en Allemagne, en France. Donc en fait, le marketing, pour moi, c'est, j'allais perdre du temps de tout refaire moi-même avec la personne qui gérait le marketing. Donc en fait, j'ai mis en place au début, en fait, j'ai mis en place un système de double management. J'ai recruté d'un côté, j'avais en fait toutes ces personnes qui travaillaient sur l'Allemagne, marketing, sales, etc., que je manageais en direct. Mais sur certaines fonctions où il y avait des playbooks très structurés, très avancés, beaucoup de knowledge déjà développé, où on se disait là-dessus, il n'y a pas raison que ce soit très différent, il y aura peut-être des adaptations. En fait, j'ai mis un peu du dotted line, en fait, un double management. Donc ça, j'ai fait sur marketing et CS notamment. Sur sales, on a repris aussi des choses. Par contre, là, j'ai géré en directement, on n'a pas fait de... Voilà, c'est peut-être quelque chose qui va changer plus tard. Je pense que ça dépend aussi de la... du stage, quoi. Ça dépend de l'étape où t'en es dans ta croissance. Là, on est en train de enfin, on a une équipe de 10. On va, je pense, rester à peu près une équipe de 10 cette année pour encore plus renforcer le côté, le bonding d'équipe, le local. Enfin, voilà, on a décidé que j'allais prendre tout le monde en direct sans forcément de faire de dotted line. Par contre, en fait, on se rend compte que on a accès et on a une communication telle aujourd'hui avec PlayPlay qu'on a accès à tout, on a le support de toutes les fonctions globales. Les équipes sont déjà très internationales et travaillent pour le monde entier déjà. Donc en fait, on est global dans la manière de travailler et moi je gère les choses en local et c'est moi qui est responsable du pays en entier. Mais c'est on a accès à tout d'un point de vue global. Plus tard peut-être qu'on changera le reporting. Mais je dirais que le reporting au début, c'est pas ce qui est pas le plus important. Le plus important c'est que on agisse, qu'on adapte, qu'on ait toutes les ressources qu'on puisse avoir, qu'on voilà, à notre portée. Chez Doctolib, c'est différent. C'est le marché de la santé est très régulé et très différent entre la France et l'Allemagne. Il y avait beaucoup plus d'adaptations à faire. Et en fait, très rapidement, c'était deux produits, mais deux pays différents, la manière de vendre, plein de choses. On s'est rendu compte, même sur le funnel de vente, plein de choses qui se faisaient différemment, qui allaient prendre plus de temps, notamment l'onboarding des équipes, des assistants médicaux, prenait beaucoup plus de temps parce que beaucoup plus de gens informés. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été différentes. Et donc là, on a beaucoup plus localisé. Alors, il y a des fonctions globales, et je pense notamment au marketing, aux produits, mais dans les fonctions globales, tu as des équipes locales. Voilà. Mais, ouais, je pense que ça dépend vraiment de la phase du business, de la phase de développement.
Non, mais ça, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de dire que finalement, il faut vraiment... Enfin, prendre ce processus aussi pour un processus d'apprentissage pour l'entreprise. Déjà, ce que c'est le marché à l'étranger, comment ça fonctionne, de se mettre en question tout le temps et de vraiment comprendre en fait cette adaptation comme un process entier à part qui se fait pas naturellement. Mais il faut toujours réfléchir à qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qu'il faut adapter, qu'est-ce qu'il faut pas adapter, et que c'est une vraie apprentissage et que tu peux pas vraiment faire des copier-coller entre les entreprises. Donc tu pourrais pas trop copier-coller des playbooks d'une entreprise à une autre, peut-être dans la structuration, donc sales, marketing, quoi, et tout ça, mais que finalement ce travail de structurer les process, de comprendre quels sont les profils dont on a besoin, c'est aussi un process en soi qu'il faut comprendre aussi comme ça. Donc ça, c'est la partie stratégique, en fait, hein, du lancement du pays.
Oui, tout à fait.
Et est-ce que autour de ça, vous avez eu est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce que ça a été aussi un process un peu... Enfin, j'imagine que c'était réfléchi, mais est-ce que vous avez eu des points réguliers sur notamment le développement international, les choses qui sont importantes et comment est-ce qu'on peut aussi rendre ça réplicable éventuellement pour un pays par la suite, hein? Tu as parlé de l'Italie notamment tout à l'heure. Donc, est-ce que c'était structuré comme process ou est-ce que c'était au début plutôt let's go, on essaie de faire ce qu'on peut et puis on essaie d'adapter au fur et à mesure.
Ah ouais, le lancement de l'Italie n'a pas été fait du tout dans les mêmes conditions que le lancement de l'Allemagne pour Doctolib. Le lancement d'Italie, il y avait toute une équipe d'extension internationale qui avait travaillé dessus. Je me rappelle qu'ils avaient même travaillé avec un cabinet externe pour déjà décider d'Italie et après voir comment on le fait. Par contre, ils ont toujours amené des équipes qui avaient déjà une grande expérience de Doctolib. Donc un des co-founders, enfin co-founders des launchers de l'Italie était un des premiers employés de Doctolib qui est parti déménager, qui est déménagé en Italie pour lancer et accompagner le lancement de l'Italie. Donc ils avaient beaucoup de, oui, ils avaient quand même structuré les choses pas mal. Chez PlayPlay, pas encore. Non, je dirais que on n'a pas encore vraiment un playbook de lancement de pays, mais je pense que c'est un projet qu'on va faire dans pas longtemps. Là, on a lancé les US, là il y a le UK qui s'est lancé aussi, l'Allemagne. Je pense qu'on va bientôt pouvoir être prêt à un peu plus définir des guidelines.
D'accord. Et peut-être dernier point sur cette question-là, c'est la cohésion des équipes et notamment, est-ce que vous les faites voyager régulièrement, vous voyez régulièrement, est-ce que les gens se parlent, est-ce qu'il y a des petits rituels que vous avez pour faire en sorte que on est quand même pas trop loin, même si on est géographiquement pas au même endroit.
Ouais, en tout cas, ouais, c'est un sujet super important. Oui, alors on a déjà une communication, une routine globale. Tous les vendredis, on a un meeting avec tout PlayPlay, avec le CEO et tout PlayPlay. Donc ça, on l'a toutes les semaines. On a aussi mis en place des échanges cross-country, cross-border, donc entre peers, donc entre pairs, donc les sales entre eux, etc. Donc il y a pas mal de choses qui se font dans leur routine et qui ont été implémentées. Ça fait partie aussi de leur playbook. Et ensuite, on fait venir... alors, au début, quand on a lancé PlayPlay, tous les onboardings en Allemagne se faisaient à Paris. Ensuite, avec la crise et les restrictions de budget, etc., l'année dernière, en fait, on a arrêté ça. Puis après, on était plus construit à Berlin. De toute façon, il y avait peut-être moins ce besoin d'aller forcément pour l'onboarding là-bas. Même si je trouve ça génial. Je pense qu'en fait, c'est génial de pouvoir avoir la possibilité de venir au siège et de voir, parce que c'est vraiment autre chose, quoi. Et là, ils peuvent vraiment se rendre compte de la culture. Par contre, venir de temps en temps, je pense que c'est important. Donc là, on le remet en place. Et donc là, on va en janvier, par exemple, mi-janvier, pour lancer l'année, pour faire les kick-offs de l'Europe, des US, etc. On va à Paris pour quelques jours avec toute l'équipe allemande. Donc, ils sont surexcités. donc, c'est super. Donc, ouais, je pense que si c'est possible qu'il y a le budget, il faut le faire.
D'accord. Et maintenant, on a toujours à la fin du podcast quelques questions un peu plus personnelles, éventuellement, parce que toi, en tant que franco-allemande, c'est évidemment intéressant. Parce que tu baignes en fait là-dedans toute la journée, qu'est-ce qui est le point le plus positif en fait de travailler dans ce monde un peu, enfin, très international et très franco-allemand en même temps, qui correspond aussi un peu à tes roots en même temps.
Ouais. Alors, à titre personnel, moi, je sais pas, ça me donne beaucoup de sens. J'utilise des choses de ma nature, en fait, de mon origine. Je suis franco-allemande et de pouvoir l'utiliser dans mon quotidien, dans mon travail, je trouve ça génial que je puisse m'en servir. Travailler dans un PlayPlay vraiment international, donc c'est génial parce que t'as des Américains, des Anglais, des Allemands, etc. Donc ça, vraiment, j'adore au quotidien d'avoir ces échanges. Je dirais que travailler avec des Allemands, en fait, c'est un challenge. Moi, j'aime les challenges. je trouve que le pays, l'Allemagne, c'est un pays qui regorge de plein de talents. C'est un pays, qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. Et je trouve que dans l'innovation, il y a un besoin d'aider, en fait, ce pays à avancer et à, à être plus fort sur ce sujet-là. Et moi, ma mission aujourd'hui, pourquoi j'ai aussi rejoint Playplay, c'est vraiment de soutenir cette innovation en Europe. Et pour moi, l'Europe est majoritairement représentée, enfin, en termes de pouvoir, de revenus, etc., c'est l'Allemagne et la France. Et donc, à ma petite échelle, je peux un peu aider à ça. Voilà, ça m'excite énormément et ça me rend heureuse de pouvoir le faire et de pouvoir d'aider. Donc voilà, c'est surtout sur cette mission-là que je trouve ça important et je trouve ça génial de pouvoir travailler avec des gens de différentes cultures. Alors, pas forcément qu'avec des Allemands, moi j'aime bien quand même travailler avec différentes cultures. Je ne sais pas si je serais prête à travailler pour une boîte allemande, sans... Voilà, c'est pas forcément.
Eh bien, super. Et après, bon, quand même, donc, t'es née à Paris, t'as grandi à Paris, même si avec un profil très international, mais quelles sont, et tu peux nous le dire en toute confiance, un petit peu les choses qui te manquent quand même au quotidien. De Paris, je sais qu'à Berlin, tu trouves, il y a plein aussi des boulangeries françaises qui sont super et tout ça, mais à titre personnel, qu'est-ce qui te manque le plus ?
Oui, c'est sûr que mon pays reste quand même de cœur, c'est la France. Je suis une grande gourmande et j'aime manger, bien manger, et je suis une amateur de vin, donc les vins, les produits, moi en France me plaisent plus, les fruits, les légumes, plus de goût selon moi. Donc ça me manque énormément. Après, c'est sûr que j'ai des attaches qui sont plus fortes là-bas, d'un point de vue familial. Et ensuite, je dirais que c'est la spontanéité, le côté un peu plus cool, un peu plus on se laisse aller, un peu fun au quotidien. Facilement, les gens prennent des verres le soir en sortant. Après, Paris est fait comme ça, c'est plein de petites rues, plein de petits bars à portée de main. Là où on a notre bureau, il n'y a rien autour ici à Berlin. Donc, bon, c'est plus difficile. Faut prendre le U-Bahn, etc. Je sais pas, c'est pas les gens ici, on sort du travail, hop, on rentre à la maison, et bien sûr, il y a des events, on s'amuse, et ils sont drôles, il y a de l'humour, hein, les Allemands savent rigoler aussi. Mais je sais pas.
Merci de l'avoir dit.
Oui.
C'est important.
Non, mais il faut juste, voilà, comprendre l'humour, etc. Ouais. Mais j'aime cette spontanéité, peut-être.
D'accord. Et est-ce que, en regardant maintenant, si tu devrais donner peut-être un conseil ou deux à la Sophie qui était la numéro zéro, enfin une d'ailleurs, pas zéro, mais la numéro une de Doctolib en Allemagne, si tu avais un ou deux conseils à lui donner, qu'est-ce que tu dirais ?
Si je relançais Playplay maintenant ?
Si maintenant tu devrais, donner un conseil à une Sophie qui va lancer un Doctolib en Allemagne, tu dirais quoi ?
Commencer petit. Trouver vraiment les bonnes personnes terrain qui ont entrepreneuriaux, qui veulent monter le projet, mais 2-3 personnes, ça suffit. On fait un peu de tout et on défriche tout ça et on se lance pas dans un recrutement trop rapidement. Je dirais ça. Être beaucoup plus bootstrap au début. J'aurais dû challenger ça davantage et dire attendez, il faut prendre un peu plus de temps et c'est ce qu'on fait maintenant en fait. Là, on a réduit l'équipe, on est beaucoup plus équipe entrepreneur, petit noyau dur et je suis très très positive sur l'année qui va venir aussi parce qu'on a cette petite équipe. Voilà, je dirais ça et m'écouter encore
des
plus.
Tripes. Ouais. Se faire feeling. Confiance. Ouais, le gut feeling, se faire confiance. Mais bon, ça, c'est vrai. Ça, se faire confiance, ça, après, ça vient avec plus d'expérience, oui.
Ouais.
C'est ça, c'est l'avantage d'avoir plus d'expérience et qu'on peut plus écouter ses tripes et pas forcément ce qu'on entend autour de soi.
Exactement.
C'est super, on prendra de tes nouvelles, je sais pas, dans un an ou dans un an et demi, en tout cas sur ce podcast, j'espère en tout cas, on se verra avant. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience doctolibien play. ça nous a donné plein de... Parce que ce qui est important toujours, c'est d'entendre un petit peu comment les gens ont fait, parce qu'il y a la théorie, il y a ce que disent les gens autour de toi, c'est ce que tu peux lire, ce que disent des investisseurs et tout ça, mais finalement, c'est pour ça qu'on a lancé aussi ce podcast, c'est les gens qui l'ont déjà fait qui peuvent mieux en parler. Et après, chacun, évidemment, doit trouver ses propres outils et la façon de faire, mais en tout cas, ça donne beaucoup d'input et beaucoup d'idées. Donc, merci beaucoup pour ça.
Merci de m'avoir invité, c'était un réel plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet.
Ouais, et comme c'était la dernière épisode de l'année, bonne fête de fin d'année, parce que comme on dit en Allemagne, En fin d'année, hein, eine frohe Weihnachtszeit, et puis on souhaite la bonne année plutôt avant et une joyeuse fête plutôt avant, et en France, c'est plutôt après. Donc encore un truc qui est différent entre nos deux pays. Donc voilà, je pourrais te le souhaiter maintenant et l'année prochaine, donc on a la double joie en fait. Donc,
passe de belles fêtes en tout cas, Andrea. Profite
Merci.
Bien.
Toi aussi, et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Je suis heureuse que tu aies écouté cet épisode jusqu'à la fin et j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau pour ton projet en Allemagne. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter par email sur andrea.vaughan@wings.co ou sur LinkedIn. N'hésite pas également à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Vielen Dank. Rendez-vous la prochaine fois pour un nouvel épisode de Good Germany Stories, le podcast de l'entreprise en expansion.